Bonjour et bienvenue à Espérance aujourd'hui. Je m'appelle Ian et je suis heureux de vous retrouver. Espérance aujourd'hui est une émission de réflexion biblique. En considérant les écrits de l'apôtre Jean, nous réfléchissons sur les derniers discours que Jésus a prononcés avant sa crucifixion. Lors de cette deuxième série, nous abordons le chapitre 14 de son évangile. Notre lectrice va tout de suite nous lire les versets 12 à 14 de ce chapitre, et ensuite, Connie nous rejoindra pour nous aider à les comprendre.
Vraiment, je vous l'assure, celui qui croit en moi accomplira lui-même les œuvres que je fais. Il en fera même de plus grandes, parce que je vais auprès du Père. Et quoi que ce soit que vous demandiez en mon nom, je le réaliserai pour que la gloire du Père soit manifestée par le Fils. Je le répète, si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai.
Merci. Nous accueillons Colin sur le plateau d'Espérance aujourd'hui. Colin, bonjour.
Merci Ian et bonjour à tous. Dans les chapitres 14 à 16 de l'Évangile de Jean, Jésus prépare ses disciples à ce qui va se passer car leur avenir va être bouleversé. En effet, Jésus sait que bientôt, tard dans la nuit, il va être arrêté et qu'il sera condamné à mourir. Il va en effet endurer la peine brutale et humiliante de la crucifixion. Toutefois, il sait aussi que, 3 jours plus tard, il ressuscitera d'entre les morts et que quelques semaines après, il retournera dans les lieux célestes auprès de son Père. Ces événements bouleverseront la vie des disciples de Jésus. Il cherche à les préparer, à les instruire, afin qu'ils puissent s'adapter aux grands changements à venir. Dans les versets que nous venons d'écouter, Jésus évoque brièvement 2 sujets importants. D'abord la mission ou le rôle qu'il confie aux disciples, et ensuite la prière.
C'est vrai que ces versets suscitent de grandes questions. D'abord, quelles sont ces grandes œuvres dont Jésus parle, que nous accomplirons? Et ensuite, Jésus semble promettre que si nous lui formulons des requêtes, il nous les accordera, pourvu que nous lui demandions en son nom. Cela dit, il est évident que souvent, Jésus n'exauce pas nos prières telles que nous le souhaiterions. Alors comment comprendre cette promesse?
Ce sont effectivement des questions importantes. Commençons par la première et le fait que, selon Jésus, toute personne qui croit en lui fera les mêmes œuvres que lui et même de plus grandes. De quelles œuvres s'agit-il?
Beaucoup de personnes, lorsqu'elles lisent ce verset, pensent immédiatement au miracle que Jésus a accompli. Peut-on en conclure que tout chrétien peut accomplir les miracles?
Je comprends qu'à première vue, il est facile d'interpréter ce verset de cette manière. Cependant, je voudrais exprimer des réserves sur une telle interprétation et orienter nos amis vers une autre façon de comprendre ce verset. Tout d'abord, je ne nie pas que l'Esprit de Dieu peut accomplir des miracles et des prodiges encore de nos jours. Cependant, peut-on affirmer que nous en accomplissons de plus grands que Jésus? Je dirais que non. Jésus a ramené des personnes de la mort à la vie, et déjà à l'ère biblique, un tel miracle était très rare. Si un tel phénomène arrivait de nos jours, on ne peut pas dire qu'il supercerait ce que Jésus a accompli. Il a également changé de l'eau en vin. Il a multiplié des pains et des poissons pour nourrir des milliers de personnes. Il a calmé des tempêtes. Or, je n'ai pas entendu parler de tels miracles de nos jours. Ensuite, le mot grec que nous traduisons par « œuvre » ne désigne pas un miracle, mais plutôt le fruit de notre travail, de nos efforts physiques ou intellectuels. Ce mot désigne les projets que nous accomplissons. Certes, l'Esprit de Dieu peut accomplir des miracles aujourd'hui. Cependant, je suis convaincu que dans ce verset, Jésus parle d'autre chose.
Quelles sont ces œuvres alors dont il parle?
Jésus demandait à ses disciples de continuer ce qu'il avait déjà commencé, notamment annoncer la bonne nouvelle. Ceci doit se faire dans l'amour avec un esprit de service et de générosité, de sacrifice aussi. Et si les disciples pourraient accomplir ces œuvres, et même de plus grandes encore, c'est parce que Jésus allait retourner auprès de son Père.
Mais quel est le rapport entre le fait que Jésus allait retourner auprès du Père et les œuvres que ses disciples et nous accomplirons?
D'abord, entre le moment où Jésus a prononcé ces paroles et le moment où il allait retourner auprès de son Père, deux événements de la plus grande importance auraient lieu, sa crucifixion et sa résurrection. Nos œuvres sont plus grandes parce que nous avons le privilège et la responsabilité d'annoncer le message de la croix et de la résurrection de Jésus. C'est le plus beau, le meilleur des messages. Jésus est mort et il est ressuscité, et grâce à ces événements historiques, nous pouvons recevoir le pardon de nos péchés. Nous pouvons nous réconcilier avec Dieu le Père. Nous pouvons naître de nouveau dans une vie abondante qui consiste à connaître Dieu, et nous avons l'assurance que nous aussi, nous ressusciterons d'entre les morts pour vivre éternellement. La grande œuvre que nous accomplissons est d'annoncer le meilleur message de toute l'histoire. Ensuite, Jésus a fait une promesse aux disciples. Il leur a dit qu'une fois assis avec son Père dans les lieux célestes, il enverrait son Esprit, l'Esprit de vérité et de sainteté, qui demeurerait dans le cœur de tout véritable disciple. C'est l'Esprit qui aide tout disciple à accomplir les œuvres de Jésus. C'est l'Esprit qui nous donne le courage d'être un bon témoin de Jésus-Christ, le courage d'annoncer au monde entier le message de la croix et de la résurrection. C'est l'Esprit qui nous aide à aimer comme Jésus a aimé. C'est l'Esprit qui remplit notre cœur de compassion et de grâce, qui nous aide à servir notre prochain avec générosité et sagesse. C'est l'Esprit qui nous aide à faire des sacrifices coûteux, à l'exemple de Jésus, en vue de secourir les nécessiteux. Pour aujourd'hui, nous allons penser au fait qu'avant d'envoyer l'Esprit, Jésus devait retourner auprès de son Père céleste. Jésus nous appelle à annoncer la bonne nouvelle, à suivre son exemple et à aimer notre prochain tel que lui-même l'a aimé. Il a accompli son ministère dans un coin reculé du Moyen-Orient. Des dizaines de milliers de personnes l'ont probablement écouté, mais la veille de sa crucifixion, il est difficile de savoir combien croyaient en lui. À vrai dire, Jésus semblait courir vers l'échec total, la mort. Mais, trois jours après, il est ressuscité, et quelques semaines plus tard, il a versé son Esprit sur l'Église. Grâce à cette relation entre l'Église et l'Esprit de Dieu, la bonne nouvelle de Jésus-Christ s'est répandue à travers le monde entier pour atteindre toutes les nations et tous les peuples de la terre. Et aujourd'hui, une grande multitude de personnes, des centaines de millions même, et probablement plus, proclament le nom de Jésus. Le message de la croix et de la résurrection de Jésus, annoncé avec amour, avec un esprit de service et dans la souffrance, a le pouvoir de transformer d'innombrables personnes. Ce message a transformé l'histoire. Il a transformé des vies, des cultures et des sociétés aussi en bien. Nos efforts paraissent-ils modestes et insignifiants peut-être, mais soyez rassurés, si nous sommes des témoins fidèles de Jésus et si nous aimons notre prochain, nous participons à sa mission, car nous contribuons à l'accomplissement de ses desseins. Nous accomplissons une grande œuvre.
Merci, Colin. Il ne nous reste pas beaucoup de temps, mais nous allons essayer d'aborder la deuxième grande question soulevée par le texte lu, celle qui concerne la prière. Jésus déclare en effet, « Si vous me demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. » Cette promesse semble être une invitation à demander tout et n'importe quoi. Et pourtant, nous savons par expérience que Jésus n'exauce pas toutes nos prières. Comment donc comprendre cette promesse?
Tout d'abord, Jésus a précisé que lorsque nous prions, il faut exprimer nos requêtes en son nom. Et dans le verset qui précède, il a expliqué aussi qu'il exaucerait nos prières d'une manière qui glorifie son Père, qui est notre Père aussi. À partir de ces deux précisions, nous devons comprendre que nous ne pouvons pas demander tout et n'importe quoi, et que certaines prières ne sont pas exaucées tout simplement parce que nous ne les demandons pas au nom de Jésus, ou que nous le demandons ne glorifie pas le Dieu le Père.
Je comprends, mais que signifie alors prier au nom de Jésus?
D'abord, il ne faut pas penser que prier, en utilisant le mot au nom de Jésus, pour clôturer une prière, servent de formule magique qui garantit un exaucement favorable ou qui oblige Dieu à répondre à nos désirs. Non, nous ne pouvons pas manipuler Dieu en prononçant des simples paroles. Dans l'Antiquité et dans la Bible aussi, le nom d'une personne était révélateur de son caractère ou de ses intentions. Ainsi, la phrase « demander quelque chose au nom de Jésus » signifie que nos prières doivent refléter ce que la Bible nous révèle sur le caractère et la mission de Jésus. De ce fait, si nous formulons des requêtes en contradiction avec le caractère ou la mission de Jésus, alors nous ne pouvons pas espérer être exaucés favorablement. Jésus a déclaré qu'il exaucerait nos prières d'une manière qui glorifie son Père. Cela veut dire que si nos requêtes le déshonorent ou portent atteinte à sa bonne réputation, jamais il ne nous exaucera. Le nom Jésus signifie « Dieu sauve ». Donc, prier au nom de Jésus, c'est prier afin que Dieu vienne au secours de ceux qui ont besoin de lui. Le salut divin repose sur la croix et la résurrection de Jésus. Et ce salut est porteur de bénédictions, qui sont le pardon et la purification du péché, la réconciliation avec Dieu, la délivrance d'esprits maléfiques et l'espérance de la vie éternelle. Prier au nom de Jésus, c'est prier pour ces choses. Mais Jésus n'est pas le seul nom qui lui est attribué. Il est aussi appelé Emmanuel, c'est-à-dire Dieu avec nous. Il est également connu sous les titres divers, le Fils de David, le Fils de Dieu, le Christ, le bon berger, l'agneau de Dieu, le Seigneur et bien d'autres encore. Ces noms révèlent sa nature, son caractère et sa mission aussi. Et nous sommes invités à prier d'une manière qui reflète les bonnes qualités contenues dans ces noms. Ainsi, puisque Jésus est Seigneur et qu'il est souverain, lorsque nous prions, nous devons nous soumettre à sa volonté et non pas chercher à la manipuler ou à exiger que nos désirs s'accomplissent. Non, prier au nom de Jésus, ce n'est pas l'obliger à nous donner ce que nous désirons, c'est aligner notre volonté sur la sienne, c'est aligner nos désirs sur les siens, c'est vouloir participer à ses desseins au lieu de vouloir qu'il exauce tous nos projets.
Merci Colin de nous avoir éclairé ainsi. Je constate en fait que les deux versets que nous étudions vont de pair. Jésus nous appelle à le servir en annonçant la bonne nouvelle de sa résurrection, tout en étant rempli de compassion et d'amour. Et puis, prier au nom de Jésus, c'est prier, entre autres, pour que l'Esprit nous aide à aimer notre prochain, à être de bons témoins. C'est prier pour que nos œuvres aident à l'avancement du royaume de Dieu et reflètent sa gloire.
C'est exact, Ian. Merci pour ce bon résumé. En fait, Jésus allait répéter cet enseignement plus tard dans son discours, et donc nous aurons l'occasion d'y revenir plus tard. Ce ne sera pas tout de suite, car lors de notre prochaine émission, nous nous pencherons davantage sur ce que Jésus enseigne au sujet de l'Esprit. En attendant, je vous dis au revoir à tous.
Merci Colin. En espérant vous retrouver bientôt, je vous dis au revoir et que Dieu vous bénisse.